On va rejoindre Marco D'Amico d'RG Média. Salut Marco!
Salut tout le monde, ça va bien?
En pleine forme, toi?
Très bien, merci.
Kirby Doc sur la patinoire aujourd'hui, Marco, pour une deuxième fois. On va jaser aux alentours de 16h dans cette émission avec à quelqu'un qui était à l'entraînement du Canadien, qui était là à Brossard pour voir les premiers coups de patin, notamment de Noah Dobson. Mais avant de parler de Noah Dobson, je veux te parler de Kirby Doc. On avait réagi ensemble au propos de Kent Hughes au courant de la dernière semaine dans une entrevue au LNH.com où il mentionnait qu'il n'était pas certain qu'on allait être prudent dans le cas de Kirby Doc. Est-ce que tu trouvais ça... Tu étais enthousiaste de voir qu'il était sur la patinoire avec son équipement complet?
Je pense que c'était une très bonne chose juste pour les partisans, pour comme adoucir un peu l'anxiété autour de lui et de tout son genou en tant que tel. Pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Puis encore une fois, si on se fie à la façon dont le Canadien ont rétabli en forme à la situation avec David Reinbacher durant le printemps dernier, c'était petit à petit. On l'a vu sur la glace. Si je me souviens bien, juste avant la pause des Quatre Nations, il a seulement fait ses débuts, si je me trompe, en mi-mars. Donc, encore une fois, 6 semaines à ce moment-là. Et a vraiment seulement commencé à faire des bouchées doubles dans la Ligue américaine, rendu en fin mars, début avril, à temps pour les séries. Donc, pour moi, c'est vraiment là où ce que... Je regarde la situation de Kirby Doc et je me dis, le Canadien va être patient avec lui. Le fait qu'il soit sur la glace, c'est parfait. Je trouve ça excellent. Et ça l'augure bien pour sa mise en santé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de setback, il n'y a pas eu de problème dans son dans tout ce qui est sa préparation physique. Donc, c'est une bonne nouvelle sans être une très bonne nouvelle. Ça va indiquer que tout semble aller dans la bonne direction. Mais on sait toujours qu'avec des genoux, c'est les situations de contact qui va vraiment être le vrai test pour ce qui est du conditionnement. Et vu que c'est une très grosse saison pour la carrière de Kirby Doc, les Canadiens ne vont pas tenter leur chance et essayer de faire quoi que ce soit pour risquer la situation.
Est-ce que tu penses que dans le cas de Kirby Doc, de ce qu'on a vu, du fait qu'il est sur la patinoire et tout ça, est-ce que ça t'incite à dire qu'on pourrait le voir pour le premier match de la saison? Encore une fois, tout va dépendre du calendrier préparatoire, tout va dépendre également du camp d'entraînement du Canadien, puis... Tant qu'à retrouver un Kirby Doc qui est à 80%, ce serait mieux pour le CH de le laisser de côté peut-être pour les deux premières semaines du calendrier régulier et après ça de l'insérer dans la formation.
Ouais, mais parce que des chirurgies comme celui qu'a eu Kirby Doc et d'ailleurs aussi David Reinbacher, ouais. C'est le risque de que l'inflammation revienne et soit vraiment un point difficile et douloureux pour le joueur en retournant. Parce que patiner sur la glace, c'est une chose. Mais les répétitions contre des joueurs, spécialement avec du contact, où ce que tu dois absorber ces chocs-là, c'est vraiment là où ce que le genou, tu le testes. Et donc, pour moi, faire retourner un jeune à 80%, tu risques plus que tu gagnes dans cette situation-là. Et le Canadien de Montréal ne peut pas se permettre quoi que ce soit dans cette situation-là, parce que si Kirby Doc se reblesse, écoute, c'est malheureusement, c'est pas une bonne chose pour Kirby Doc. Ça annonce quasiment la fin pour lui en termes de ses aspirations comme centre top 6 dans la Ligue nationale, mais aussi pour le Canadien de Montréal et sa saison, parce qu'ils se doivent maintenant être compétitifs et poussifs pour les séries. Donc, il y a beaucoup à risque ici. Donc, je vois mal l'organisation pousser Kirby Doc pour être prêt une ou deux saisons avant qu'il le soit pour de vrai. Donc, pour moi, ça l'augure bien. C'est quelque chose qu'ils vont surveiller. Mais si on suit à ce qui s'est passé avec David Reinbacher, c'est encore à voir s'il va être prêt pour le début de la saison.
Ouais, c'est juste encourageant quand même de le voir sur la patinoire à Brossard ouais. Avec son équipement complet. Ouais.
Absolument. Puis écoute, regarder les partisans et être content pour lui, oui, excellent. C'est juste, encore une fois, c'est juste des images de lui en train de se pratiquer. Tu le vois pas en train de se donner à fond durant les pratiques. Tu le vois pas en train de patiner à son plein potentiel et freiner et retourner de bord. Il y a plusieurs aspects sur la glace qui semblent plus faciles quand tu es dans une pratique mollo que versus un camp d'entraînement où il faut que tu te donnes à 100% parce que tu as deux ou trois gars qui se bataillent pour ta job si tu n'es pas prêt pour la prendre. Donc, c'est là où ce que je veux voir, c'est qu'est-ce qui va se passer au moment où ce que le camp d'entraînement ouvre et est-ce que Kirby Doc va être à son poste pour être prêt pour des matchs préparatoires ou est-ce que ça va être la fameuse formule qui va il va faire il va être en attente sur le côté et qu'on verra ensuite s'il peut sub in ou out avec un jeune qui prend sa place dans l'alignement comme on a vu par le passé. Donc c'est là que ça va être intéressant. C'est certain que le Canadien il va jouer, si je me trompe, 6 matchs hors concours cette année. Donc il va avoir l'opportunité de jouer, selon moi, mais je pense que le Canadien vont garder ça relax pour que peut-être on le voit endosser le gilet du Canadien plus tard dans le processus pour essayer de laisser tous les joueurs, comme on a vu l'année passée, les joueurs de la Ligue américaine qui veulent faire un nom et un impact, comme on a vu avec Cédric Paré. Je pense que le Canadien va essayer d'éviter ça et le donner un peu plus de temps pour être prêt les 2 ou 3 derniers matchs préparatoires.
On voit les premières images de Noah Dobson via le compte X du Canadien. 2 premières photos avec son chandail du CH et le numéro 53. Il était sur la patinoire à Brossard un peu plus tôt ce matin pour la première fois, Marco. Encourageant de voir que Noah Dobson est déjà ici. Par contre, ça va participer au camp d'orientation de la formation canadienne en vue des Jeux olympiques à Milan. Alors, va partir, va prendre l'avion, va revenir à la fin de la semaine. C'est un camp d'orientation qui dure 3 jours pour la formation canadienne. A pris des répétitions, tu sais, sur réception de Lane Hutson. Est-ce qu'on va voir ça sur la première vague d'avantages numériques pour débuter l'année?
Personnellement, je me demande. C'est plus vraiment la mode ces temps-ci dans la Ligue nationale de voir 2 défenseurs vraiment comme sur la ligne bleue. Je pense qu'on voit plutôt des diamants ou des ombres longs, comme on dit, qui sont utilisés. Donc, tu essaies plus de pousser le de la rondelle vers les ailes pour ensuite attaquer le centre. Et si tu as 2 défenseurs, mais ça l'ouvre plus ton jeu. Et le centre de la glace reste pas mal ouvert avec personne vraiment là pour s'en occuper. Et sur un avantage numérique, tu veux couvrir le plus de glace possible. Donc, c'est pour ça que tu as vu un changement dans cette stratégie-là à travers les années. Et avec le Canadien de Montréal, je trouve qu'ils avaient un très bon, je dirais, un noyau de 5 joueurs, spécialement en série avec Demidov là, que je vois mal mettre tes 2 meilleurs défenseurs sur la même vague alors que tu veux créer 2 vagues assez dominante et que tu peux le faire cette année avec les Lainé, les Bolduc et aussi Noah Dobson. Mais, veux pas, il y a toujours l'option nucléaire, il y a toujours l'option où ce que tu as vraiment besoin d'un but, tu as 6 patineurs sur la glace puis tu vas avoir besoin de cette répétition-là où ce que ces joueurs-là sont capables de se repérer. Donc, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait exciter les partisans parce que ça va venir des moments où ce que le Canadien va avoir besoin d'un gros but et avoir ces deux-là sur la glace va grandement aider dans aller chercher les fameux gros buts de fin de troisième période.
À quel point l'arrivée de Noah Dobson va bénéficier aux autres défenseurs de l'organisation, Marco?
Ah, moi, c'est certain qu'un gars comme Lane Hutson va en bénéficier parce que là, tu as vraiment 2 piliers offensifs sur la défensive qui peuvent jouer d'un bord comme de l'autre. Et qui vont être capables d'être utilisés aussi en avantage numérique, dans des situations offensives. Donc, c'est certain que ça va être un peu plus difficile cette année pour l'opposition d'avoir un plan de match côté comment est-ce que tu vas freiner le jeu, spécialement en motion. Là. Toute la transition du CH l'année passée partait primordialement par Lane Hutson et ou Mike Matheson, mais là, tu vas avoir plusieurs options. Et d'ailleurs, le Canadien aimerait voir Caden Gooley s'aventurer dans ce contexte-ci aussi. Donc là, ils vont vraiment être capables de jouer ce jeu rapide-là avec une transition rapide, une contre-attaque rapide. Et je pense que quand tu as un gars comme Noah Dobson qui est capable de lui-même transporter la rondelle sans problème parce qu'il est 6 pieds 4, parce qu'il est très bien bâti et parce qu'il est un très bon manieur de rondelle, ben ça l'enlève cette pression-là, je trouve, sur un gars comme Lane Hutson et ça va leur permettre les deux de jouer leur game dans la game, comme dirait Martin Saint-Louis.
Oui, c'est excellent, ça c'est très bon. Pour débuter l'année, la question qu'on pose aux auditeurs, Marco, avec qui Dobson va être jumelé? Je sais que c'est quand même assez tôt dans le processus. Il y a un camp d'entraînement, Martin Saint-Louis va tenter des combinaisons en défense. Mais toi, là, à l'heure actuelle, tu verrais Dobson débuter l'année avec qui sur la même paire?
Je crois que l'expérience que Dobson a à jouer dans toutes les situations ferait en sorte que tu dois le mettre avec un gars qui est capable de jouer dans toutes les situations aussi. Donc, moi, je suis plus apte à le mettre avec un gars comme Caden Gooley, d'utiliser cette paire-là pour contrer les meilleurs trios offensifs. Et ensuite, la deuxième paire, et on peut, tout le monde pourra argumenter pendant des heures sur qui va se trouver à côté de Lane Hudson, mais cette paire-là pourrait ensuite venir en relève et vraiment dicter le ton de façon offensive. Et écoute, il va y avoir des blessures, il va y avoir le quatuor, le top 4 qui va changer assez souvent. Donc, il n'y a rien qui est coulé dans le ciment. Mais en connaissant Martin Saint-Louis, puis en sachant qu'il veut vraiment une bonne base, et du fait que les Canadiens n'ont pas transigé un Michael Matheson, je crois vraiment qu'on va voir une combinaison Gooley, Dobson et ensuite Lane Hudson, Mike Matheson pour débuter l'année avec Alex Carrier sur la troisième paire, et on verra qui complétera entre Arbor Jacki et Jaden Struble pour le sixième poste. Ça, c'est la façon que je vois les choses. Maintenant, le hockey se joue sur glace et c'est certain qu'il y a des postes à gagner, donc on verra qu'est-ce que ça donne en espérant que tout le monde, bien sûr, reste en santé.
En vue de cette saison-ci, dernière année de contrat pour Patrick Laine, 8,7 millions par saison. Il a dit dans une entrevue à Anthony Martineau, le TVA Sport, « Oui, j'aimerais bien beaucoup être ici. Il veut demeurer à Montréal après la prochaine saison. » À quoi tu t'attends dans le cas de Patrick Laine et des négociations de contrat avec les Canadiens à l'heure actuelle?
Ouais, à l'heure actuelle, je pense pas que c'est nécessairement des négociations hyper profondes en ce moment. Là, je pense que c'est certain qu'il y a un désir d'un bord comme de l'autre. Ou je dirais, pas un désir, mais un intérêt de pouvoir regarder un nouveau contrat. Mais c'est certain que à 8,7 millions, il va falloir réviser le salaire dans le cas de Patrick Laine. Mais avant que tout le monde vont commencer à certainement avoir leurs opinions là-dessus, il faut mettre des choses en contexte. Patrick Laine, l'année passée, n'a pas pratiqué de l'été. Patrick Laine n'aurait pas dû, selon les premières diagnostications de sa blessure, n'aurait pas dû jouer la saison passée. A eu une deuxième opinion qui l'a laissé faire son rehab et revenir à temps. Mais on a vu qu'est-ce que ça l'a donné dans son jeu en fin de saison, un peu manqué de jus en rentrant dans une saison à moitié préparée sans un conditionnement durant l'été. Donc c'est pour ça qu'il est sur la glace cette année quasiment à chaque jour, et qu'il s'entraîne très fort pour la saison qui s'en vient, une année de contrat, bien sûr. Mais je crois que le Canadien n'a pas vu nécessairement le plein potentiel de ce que Patrick Laine peut faire ici avec eux. Et c'est là, d'ailleurs pourquoi le Canadien a un intérêt de voir ce qui va se passer. Je ne pense pas qu'il va nécessairement avoir un rush de leur part de pousser vers un contrat, sauf si le clan Laine sont vraiment sérieux dans le fait qu'ils veulent rester et qui sont prêtes à grandement réduire les demandes salariales qu'aurait un Patrick Laine versus ce qu'il avait durant les négociations de son dernier contrat avec les Blue Jackets de Columbus. Donc, avec un gars comme Laine, c'est certain que dans le futur, si tu peux le mettre sur un deuxième ou troisième trio, quand tu vas avoir trois trios vraiment offensifs, mais c'est là que ça va changer la donne, parce que avoir un gars comme Patrick Laine comme deuxième vague offensive, il y a peut-être 10 joueurs dans la Ligue nationale qui ont la capacité de tir comme lui. Donc, ça change beaucoup la valeur qu'il peut t'apporter. Et c'est certain, on a vu d'autres vétérans dans la Ligue nationale depuis le début de l'été qui ont signé des contrats, disons, un peu plus sur le long terme, mais avec un très bas salaire. Et je crois que si vraiment il est en amour avec la ville tant qu'il le dit, ça pourrait se passer, ça pourrait être une option pour un gars comme Patrick Laine. Par contre, tout est dans le contexte. Si Patrick Laine débute la saison en force et n'a pas encore signé un contrat, ça va changer la dynamique de la situation. Et c'est là où ce que je mets un petit astérisque avec lui, c'est oui, il va être très motivé à jouer. Et s'il commence la saison en feu, comme il a commencé l'année passée, quand il est retourné en décembre, ça va peut-être brouiller les cartes. Ses demandes salariales pourraient peut-être augmenter. Et c'est là où ce que le Canadien va devoir faire un choix. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un Patrick Laine à long terme alors que tu viens de transiger pour un Zachary Bolduc et que Ivan Demidov commence sa carrière? Est-ce que tu as vraiment besoin d'un autre allié offensif dans ce contexte-ci? Tout dépend du salaire, mais si le salaire et le nombre d'années fonctionnent, je crois que ça pourrait fonctionner. Ce serait un mariage qui pourrait avoir de l'allure tant et si longtemps qu'il reste en santé.
Tu parlais de deuxième ou troisième trio dans le cas de Patrick Laine, mais est-ce que tu t'attends à le voir débuter la saison dans le top 6 du Canadien?
Je pense que pour l'instant, oui. On a vu une certaine une approche, disons, plus conservatrice de la part de Martin Saint-Louis pour les jeunes qui intègrent dans son alignement. Ivan Demidov a eu peut-être le seul laissé-passer qu'on a vu depuis le début de son temps avec le Canadien. Parce que vraiment, un joueur top 6 comme lui, tu n'allais pas le jouer sur un troisième trio. C'était le deuxième trio ou le quatrième trio. Et donc, je pense qu'on savait où il allait le jouer. Mais avec un gars comme Zachary Bolduc, qui peut jouer sur un quatrième, troisième, deuxième trio sans problème, selon moi. Donc, pour moi, je crois que le débuter sur un troisième trio, le faire comprendre vraiment la stratégie, les systèmes et la philosophie du coach, en ayant un gars comme, et le vétéran, bien sûr, Patrick Laine sur le deuxième trio pour débuter la saison, serait à quoi je m'attends. Et ensuite, durant la saison, tout peut changer, tout peut passer par le blender. Ça se peut que Patrick Laine se trouve sur le premier trio, ça se peut que Zachary Bolduc se trouve sur le deuxième trio. Tout peut changer, spécialement avec les blessures, on ne sait jamais. Mais je m'attends à ce que Patrick Laine retrouve sa place dans le top 6 et qu'on va voir ensuite qu'est-ce que ça donne avec le camp d'entraînement et tout. Et c'est vraiment là où on va voir si la chimie, tout ce qui est le pacing de son jeu, être capable de suivre le jeu, son coup de patin, etc. Si ça suit et si on voit vraiment une nette amélioration comparée à l'année prochaine, l'année passée, excuse-moi, je ne vois pas pourquoi Martin Saint-Louis ne mettrait pas Laine sur son deuxième trio.
Si jamais Laine devait jouer des matchs sur le troisième trio, crois-tu qu'il comprendrait son rôle sur un troisième trio qui est peut-être moins offensif à Montréal?
Je pense que c'est là l'erreur. Personnellement, si tu regardes les troisièmes trios de toutes les équipes qui ont gagné une Coupe cette année, ce n'est pas des trios défensifs. Ce n'est plus le cas. Si tu as besoin de trois trios offensifs pour vraiment être capable de soutenir un jeu et un système et un momentum offensif dans la Ligue nationale, spécialement en série. Donc, pour moi, tant et aussi longtemps que sa place est assurée sur l'avantage numérique, que tu le joues sur un deuxième ou troisième trio, ça ne change pas la donne avec un entraîneur comme Martin Saint-Louis, que lui, si tu regardes vraiment l'utilisation à 5 contre 5, outre son premier trio, les trois autres trios jouent d'habitude le même nombre de minutes à 5 contre 5. C'est juste les unités spéciales qui changent la donne. Et c'est là vraiment la différence. Donc, tant et aussi longtemps qu'il est sur un des deux vagues d'avantages numériques et qu'il y a au moins une douzaine de minutes à 5 contre 5, je ne vois pas vraiment un problème pour Patrick Laine. Il va être capable de démontrer qu'est-ce qu'il peut faire. Et c'est, ça va être à lui aussi, rendu à ce stade-ci de sa carrière, d'évoluer en termes de joueur et ajouter certains éléments qui vont faire en sorte qu'il va être plus complet aussi. Donc, c'est dans des situations comme ça où tu es capable de vraiment travailler avec un joueur et l'aider à développer cet aspect-là. Je sais que c'est pas nécessairement le meilleur exemple côté offensif, mais on l'a vu un peu avec la situation de Josh Anderson. Plus vraiment le même marqueur de but qu'on a vu la saison avant qu'il vienne à Montréal. Mais maintenant, travailler son jeu défensif, et il est un pilier pour le Canadien à 5 contre 5 avec sa robustesse, avec son jeu défensif, et maintenant utilisé en désavantage numérique. Je ne dis pas que ça va être nécessairement le cas avec Patrick Laine, mais je démontre qu'il y a un historique avec le Canadien de remodeler certains joueurs selon le besoin.
À une minute, je vais finir avec ça. On en a parlé au courant des dernières semaines, mais Lane Hudson, qui n'avait pas été invité au camp d'orientation de la formation américaine, une des raisons, ce serait qu'il n'ait pas été au championnat du monde pour représenter son pays. À quel point tu donnes une importance à sa non-présence dans les invitations qu'on a faites pour le camp d'orientation?
Je pense que c'est un message clair qui est envoyé au camp, à Lane Hudson et son camp. Si tu veux vraiment y être, il faut que tu y sois à des événements comme ça. Et c'est la raison pourquoi tu vois des Frank Nazer et des Jackson Lacombe qui ont très bien fait, eux, à ce tournoi-là, mais qui n'ont pas nécessairement eu la saison que Lane Hudson a eu l'année passée. Donc, ça fait en sorte que tu as des situations où tu te demandes pourquoi ci et ça, mais ça joue dans les politiques parce que ils veulent voir ces joueurs-là jouer avec certains des joueurs qui vont déjà être sur le roster pour eux dans l'alignement. Donc, c'est là que tu bâtis une chimie, tu bâtis une identité, puis tu veux voir des joueurs dans certaines différentes situations et pas nécessairement dans des situations de club. Donc, c'est un peu ça, puis pour moi, c'est pas nécessairement la meilleure excuse au monde, mais c'est comprenable. Je suis pas d'accord, mais c'est comprenable.
Marco D'Amico d'RG Media, également co-animateur du podcast Processus, premier épisode le 17 septembre. Un gros merci pour ton temps. On se retrouve mercredi 15h pour une autre intervention. Très content de t'avoir jasé aujourd'hui.
Un gros plaisir. On se voit mercredi.